Moi, j'ai un message ce matin que j'appelle « Soyez remplis de l'Esprit ». C'est une invitation. Un message sur les bénéfices abondants, profonds et pratiques associés au don de l'Esprit. La puissance d'une vie vécue par, avec et remplie de l'Esprit de Dieu. Nous allons prier que le Seigneur nous inonde ce matin, mais non pas comme vendredi soir. Qui nous inonde son esprit, soyez remplis de l'esprit. Un message sur l'importance du don de l'esprit, qui est quand même un message important. Car Paul nous met en garde contre l'ignorance quant à l'activité de l'esprit. 1 Corinthiens 12, voici ce qu'il dit. Pour ce qui concerne les dons spirituels, ça c'est le mot pneumatikos en grec, les choses de l'esprit, l'ensemble des activités et ses agissements, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et le mot pneumatikos qui traduit les dons spirituels, c'est vraiment l'ensemble des activités spirituelles de l'esprit. Et c'est un mot qui est trouvé nulle part dans l'Ancien Testament, nulle part dans les Évangiles, mais seulement après la Pentecôte, où pour la première fois dans l'histoire du monde, les dons spirituels sont accessibles à tous les croyants. Et avec cette possibilité vient la responsabilité de nous informer et nous éduquer sur le sujet. Et quand je dis sujet, je parle des dons et non pas de l'esprit. Car le Saint-Esprit n'est pas un sujet, il est une personne. Il n'est pas une force, il n'est pas une énergie spirituelle, ni un oiseau. Il est une personne. Il est Dieu. Et pour cette raison, Paul fait tout de suite une comparaison entre le Dieu de la Bible, le Dieu des chrétiens, et les multiples idoles muettes de la ville de Corinthe que les chrétiens de cette ville connaissaient très bien. L'avez-vous remarqué? Il met tout de suite un lien entre les dons spirituels et les idoles que les gens connaissaient. Il dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance concernant les dons spirituels. Vous savez que lorsque vous étiez païens, des incrédules, des non-convertis, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. C'est comme s'il disait, chers Corinthiens, Dieu n'est pas un Dieu comme vous êtes habitués. Et pour cette raison, il faut qu'on s'informe sur qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait, car il n'est pas une idole. Vous êtes habitués à des idoles. Dieu n'est pas une idole. Il n'est pas muet comme une idole, ni sourd, ni aveugle, ni immobile, ni mort. Notre Dieu vit, il voit, il entend, il communique, il agit par son esprit. Un bon main d'applaudissement pour un Dieu qui est vivant, qui est là, qui voit, qui est présent. Il n'est pas une idole. Et le don de l'Esprit est un des grands, grands dons de Dieu envers nous. C'est un don excellent et parfait, comme Jacques le décrit en Jacques chapitre 1, le passage est sur l'écran. Jacques dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Pour tous ceux qui croient que les dons de l'Esprit ont cessé avec la mort des apôtres, Jacques fait attention d'écrire que non seulement Dieu donne des dons excellents et parfaits, mais il continue de le faire. Car il ne change jamais, même pas un peu, ni changement, ni ombre de variation. Alors Dieu a donné les dons dans le passé et Dieu donne des dons encore aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Et le plus grand don de tout, avec le don du salut, et le don du Saint-Esprit, le don de Dieu lui-même, le don le plus parfait et excellent de tous les dons, car de lui issus tous les autres dons de Dieu, incluant le don du salut. Car ce n'est pas par la religion que nous sommes sauvés, mais la régénération. Par l'acte surnaturel du Saint-Esprit qui nous donne littéralement une vie nouvelle. C'est ce qu'on appelle le salut, la nouvelle naissance, la conversion impossible d'obtenir par des actions et des observances religieuses, mais par la régénération et l'arrivée du Saint-Esprit dans notre vie. Si vous êtes heureux pour la régénération et la vie nouvelle que le Saint-Esprit nous donne, donnons un bon main d'applaudissement au Seigneur. Merci pour ça. C'est la vie, c'est la vie. Ce n'est pas la religion, c'est la vie. Et ce don du salut ouvre la porte à la possibilité de vivre et revivre des expériences puissantes avec et par le Saint-Esprit, qui nous donne l'onction, la force, la puissance nécessaire pour vivre une vie chrétienne victorieuse et abondante. Et selon Jean, l'évangéliste Jean, l'évangile de Jean, quand Dieu nous donne son esprit, il le donne sans mesure, en abondance. Et il cite Jésus deux fois à ce sujet. Jean 4, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillirait jusqu'à la vie éternelle. » Et là, Jésus, et plus tard, Jésus réitère cette vérité en criant, littéralement en criant, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Wow! D'une source d'eau qui jaillit en nous à des fleuves d'eau qui coulent de nous. Quand Dieu donne, il donne en abondance. N'est-ce pas ça que l'Évangile de Jean nous enseigne? Un Dieu d'abondance. Jean chapitre 1, nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. Jean 2, Jésus pourvoit une abondance de vin. Jean 6, Jésus pourvoit une abondance de pain. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur enlève, Jésus donne. Les choses de ce monde nous laissent vides, Jésus nous laisse combler. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Mais il n'est pas fini, Jean. Jean 15. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Pas un peu de fruits, beaucoup de fruits. Jean 15 encore. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Wow! Et là, il termine son livre en parlant des miracles que Jésus a fait. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait. L'avez-vous remarqué? Une abondance de grâce, une abondance de pain, une abondance de vin, une abondance de fruits, une abondance de joie, une abondance de vie, une abondance de miracles et une abondance de son esprit que Jésus compare à un fleuve. Le message de Jean est indéniable. Nous ne servons pas un Dieu de miettes, mais d'une abondance illimitée. Pensez à ça. Wow! La prochaine fois que vous entrez dans votre chambre de prière avec le Seigneur, pensez à ce que je vous ai dit ce matin. Entrez avec anticipation pour dire, « Seigneur, je viens chercher une abondance de ta grâce, ta joie, ta puissance, ta vie, ton esprit, afin de sortir et pour porter un peu de fruits, mais porter beaucoup de fruits. » Nous avons tout ça dans la présence du Seigneur. Wow! Un Dieu d'abondance. Come on! Encore une bonne main d'applaudissement. On a tout ça. Abondance, abondance. Le Saint-Esprit n'arrive pas en compte-gouttes, mais il arrive avec une fleuve d'eau vive, avec une abondance de bénédictions, de puissance et de dons. Et tout cela pour qui? Pour celui qui a soif, pour celui qui désire, pour celui qui demande, celui qui cherche et qui aspire et qui boit. Avons-nous des personnes ici soif pour la plénitude du Saint-Esprit? Levez vos deux mains et dites, « C'est moi, Seigneur, c'est pour vous! » La seule condition, c'est de demander, c'est d'être assoiffé, c'est de boire. Ce n'est même pas la perfection. Ça, c'est la plénitude et la perfection de l'Esprit pour compenser pour nos imperfections humaines qui existent depuis toujours. Nous, on n'est pas parfaits, mais ça ne prend pas la perfection pour bénéficier de l'abondance de l'Esprit. Ça prend juste un désir, un soif pour dire, « Me voici, Seigneur, très imparfait, mais merci que moi, je peux boire de la plénitude et la perfection du Saint-Esprit. » On a besoin de ça par rapport à nos imperfections. Si vous n'êtes pas parfait, moi, je ne suis pas parfait non plus. Merci pour la amen. L'imperfection chez les êtres humains existe, comme vous savez, depuis à peu près toujours. Commençant par Adam. Adam, on paye pour sa gaffe encore 6 000 ans plus tard. comme vous savez, que ce soit les petites irritations que nous connaissons, les situations tragiques que nous vivons, tout cela est la faute de l'échec de la dent. À chaque fois que vous vous regardez dans le miroir et dites « Oh, c'est la faute d'Adam. » Toutes les fois que vous regardez dans le miroir puis vous dites « Wow! » Ça aussi, c'est la faute d'Adam. C'est parce que vous perdez la vue. Et on peut ajouter Adam, comme vous connaissez les histoires bibliques, il n'y en a pas un qui était parfait. Pas Moïse, pas Noé, pas Lot, pas Samson, pas le roi David. Même pas Abraham, le père de la foi, coupable de mensonges et pour donner son épouse à un roi deux fois. Personne n'est parfait. Salomon, le grand sage. Tellement sage qu'il a épousé 700 femmes. Dont plusieurs des pays étrangers qui ont réussi à le détourner de Dieu et corrompre son cœur. Les étudiants à l'école biblique qui vont me demander des fois, « Pasteur Marc, est-ce que Salomon sera au ciel ou en enfer? » Moi, je dis toujours, « Le ciel. » Il y avait 700 femmes, il a déjà vécu son enfer. Ça, c'est la théologie profonde de l'ETF. Inscrivez-vous à l'école biblique. On peut ajouter Jonas à ça, le roi Saül, Pierre, Marc, Judas. Et je dis tout cela pas pour vous décourager. Ce sont des histoires inglorieuses et anti-héroïques, mais c'est pour comprendre que nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes tous imparfaits, dont nous avons tous besoin de la plénitude et la perfection du Saint-Esprit. Vous, moi, Pasteur Claude Aude, Pasteur Seb Bunel, Pasteur David Mondard, on n'est pas parfaits, mais on désire la perfection et la plénitude et l'onction du Saint-Esprit pour compenser pour nos imperfections. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Loin d'être parfait. En 1980, mon père, le pasteur Samuel Lecomte, il avait tellement confiance en pasteur Claude et moi quand on a quitté pour l'école biblique. Moi, j'avais 17 ans, pasteur Claude avait 19 ans, puis on a quitté aux États-Unis pour aller à l'école biblique. Et mon père, le pasteur Samuel Lecomte, avait tellement de confiance en nous qu'il nous a laissé avec ses paroles juste avant qu'on embarque dans la voiture. « Si jamais vous vous faites expulser de l'école, continue vers le sud, ne reviens plus ici. » Vraie histoire! Merci, Dad. On appelle ça une parole de confiance. Des paroles de vie. Parce qu'il savait qu'il n'y avait plus rien à faire avec nous. Et plus qu'une fois, à l'école biblique, Pasteur Claude et moi sortaient la carte géographique et se demandaient où allons-nous, la Floride? Parce qu'on était loin, loin, loin d'être des candidats idéaux pour le ministère. Mais on était disponible, on était là, on était désireux et on est encore disponible et désireux et soif de la plénitude de son esprit. Dieu est capable de servir de nous malgré nos imperfections si nous avons un soif et un désir et une passion pour la plénitude de tout ce que le Seigneur peut nous donner par la puissance et le don de son esprit. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Dire, yes, c'est pour moi ça aussi. La plénitude et la perfection de l'esprit pour nous. Peu importe notre titre ou fonction ou place dans le corps de Christ, que nous soyons pasteurs, leaders, membres de l'Église, de l'équipe, membres du CA, membres officiels de l'Église ou pas, qu'on sert en arrière de la scène ou en avant de la scène, que ce soit 20 ans que nous sommes chrétiens et nés de nouveau ou 20 jours, je suis convaincu que nous avons tous besoin d'être remplis ou re-remplis ou reconnectés avec le Saint-Esprit, moi le premier. Alors notre prière ce matin, la même que Paul a prié pour les Éphésiens, « Ne vous enivrez pas de vin, Éphésiens 5, 18, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Comprenez, Paul ici n'écrit pas un polémique contre le vin. Ça, c'est un soulagement pour plusieurs ici. Hein? Il y en a qui commencent à avoir peur. Wow, wow, wow. Mais ce n'est pas un polémique contre le vin. Mais plutôt, on appelle à tous d'être remplis de l'Esprit. La préoccupation de Paul ici n'est pas que nous évitons le vin nécessairement à tout prix, mais que nous recherchons l'Esprit. Et ce n'est pas pour rien que Paul fait la juxtaposition entre l'alcool et le Saint-Esprit. Il veut s'assurer qu'on comprend les bénéfices d'être rempli du Saint-Esprit sont beaucoup supérieurs à celles que le vin nous donne. Il fait une comparaison. Comme exemple, l'alcool nous aide à fuir nos problèmes, le Saint-Esprit nous aide à les faire face. L'alcool nous aide à oublier nos soucis pour quelques instants, mais le Saint-Esprit nous aide à les vaincre et à trouver des solutions. L'alcool nous engourdit et réduit notre stress pour quelques instants et nous aide à moins ressentir les effets de notre angoisse. Le Saint-Esprit nous rend plus alerte, avec une meilleure vision et capacité de focaliser et comprendre la réalité et nous donne la force et les moyens pour vaincre nos émotions destructives. L'alcool nous libère de nos inhibitions et nous rend plus à l'aise avec nos gestes et nos paroles, qui est rarement une bonne chose. Comme quelqu'un a déjà dit, il y a bien des choses qu'on peut préserver avec l'alcool, mais notre bon jugement n'en est pas une. Tandis que le Saint-Esprit augmente notre jugement et nous aide à mieux contrôler nos gestes et nos paroles. Parmi la liste de fruits de l'Esprit en Galates 5, Paul inclut la maîtrise de soi. On pense que l'alcool, tout comme la drogue, la médication, nous aide à bien gérer nos émotions, à trouver la paix, le calme, la joie, le contrôle de nos sentiments, à maîtriser nos impulsions. Mais selon Paul, le Saint-Esprit nous aide avec tout cela aussi et gratuitement en plus. Une bonne main d'applaudissement pour tous les bénéfices d'être remplis de l'Esprit. Supérieur à tout. Alors, prions avec moi. Non seulement que nous puissions avoir plus du Saint-Esprit, mais pour que le Saint-Esprit puisse avoir plus de nous. Soyons remplis de l'Esprit comme les premiers croyants en Actes, afin de devenir ce que nous sommes appelés à être. Des témoins, des communicateurs pour Dieu, des conduits de bénédiction, guérison, restauration et salut, qu'on soit des gagnants d'âmes, des témoins visibles et vivants de la grâce, l'amour, la puissance de Dieu. Sois rempli de l'Esprit afin que nous avons tout ce que nous avons besoin pour avancer l'Église et contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Soyez rempli de l'Esprit pour toutes ces raisons et aussi pour devenir la réponse à la prière de Moïse en Nombre chapitre 11. Car pour bien comprendre la signification profonde et historique de l'arrivée du Saint-Esprit en Actes chapitre 2, il faut regarder en arrière à peu près 1500 ans à Moïse dans le désert. Moïse qui passait une très mauvaise journée sous le fardeau de ses charges. Puis voici la prière qu'il a priée ici, dans un moment de découragement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur que tu aies mis sur moi la chair de tout ce peuple? Je ne puis pas, moi, seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Tue-moi, je te prie. » Combien sont heureux que Dieu ne répond pas toujours oui à toutes nos prières? C'était sa prière. Tue-moi! Dieu ne répond pas toujours oui. Je comprends que notre stress est parfois entièrement insupportable. Mais attention à ce qu'on demande de Dieu. Car si vous avez du stress par rapport à vos fardeaux et responsabilités, il y a une bonne chance que Dieu croit que vous êtes assez fort pour les supporter. Et que parfois, le stress est un signe de bénédiction, un privilège même. C'est un signe de la confiance de Dieu en nous, ou au moins, nous avons quelque chose entre nos mains pour laquelle on est stressé. Est-ce que vous me suivez? Dieu a donné à Moïse le privilège d'un leadership remarquable. Le privilège de diriger la première église, d'une façon de parler, l'église dans le désert. Moïse avait un appel historique, un des plus importants dans l'histoire de l'humanité entière. Mais avec le temps, son ministère est devenu un fardeau. C'est devenu un fardeau pour Moïse. Il a commencé à le voir comme une malédiction au lieu d'une bénédiction, et c'était une erreur de sa part. Car porter des fardeaux est le sort des adultes. Il fait partie de notre appel, je dirais même notre privilège, ce que j'appelle le privilège des fardeaux et des défis, le privilège du stress même. C'est pour cela que je réponds souvent à des hommes qui se plaignent à moi de leur stress. En anglais, I say, a life without stress is for wimps. Une vie sans stress, c'est pour les faibles. Et nous ne sommes pas des faibles, mais des forts avec Dieu. On appelle ça la thérapie selon Pasteur Mark. C'est pour ça que je ne suis pas responsable pour le département de counseling pastoral à l'Église Nouvelle Vie. Je dis ça avec un sourire, évidemment, et pas sans compassion, pas du tout. Un peu en blague, mais pas sans compassion, je m'explique. J'ai eu une discussion avec un homme d'affaires dernièrement qui se plaignait du stress qu'il vivait. Et il se demandait pourquoi que Dieu n'enlevait pas sa stress, pourquoi que Dieu ne m'enlève pas ma stress, mes soucis. Ça, je lui ai demandé, voudrais-tu vraiment que Dieu fasse ça? Pourquoi es-tu stressé? Quelles sont tes sources de stress? Ah, c'est l'ensemble de mes responsabilités, mes finances, ma compagnie, mes employés, ma famille, ma maison, les multiples contrats, tout ça. OK, veux-tu que Dieu enlève toutes ces choses? Veux-tu que Dieu enlève ta compagnie, tes finances, tes employés, ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, tes multiples contrats? Et dit non, non, ben non, ben non, c'est une source de bénédiction pour moi, exactement. Exactement. Même chose pour le ministère pastoral. J'ai des pasteurs qui se plaignent à moi de leur église, leur congrégation, leurs soucis, mais ils ne veulent pas que Dieu enlève leur ministère. C'est moi, je les demande, mais que voulez que Dieu fasse? Plusieurs diront, qu'il me donne une autre église où les gens sont plus gentils, moins difficiles et plus sanctifiés. Bon, moi, je compare ça à un médecin qui veut changer d'hôpital pour une où les gens sont moins malades. Ça n'existe pas. Il faut comprendre que les choses que Dieu nous donne peuvent être une source d'un fardeau, une source de stress et d'inquiétude, mais au moins nous avons quelque chose entre nos mains. Alors quand tu te réveilles demain matin, au lieu de te plaindre de tes soucis, dis « Merci Seigneur pour tout ce que j'ai entre mes mains, pour tout dont je suis responsable. Quel privilège, quelle bénédiction de porter ces fardeaux et de gérer ces responsabilités. » Est-ce que je peux entendre un amen à cela? « Merci Seigneur que j'ai quelque chose entre mes mains. » Les sources de votre stress sont un privilège. Au moins, vous avez quelque chose entre vos mains pour vous stresser. Vous portez la fardeau d'une personne à qui Dieu a confié des choses, des projets, des personnes, des enfants, une famille, un poste. Il faut l'accepter et dire merci et ne pas être écrasé ni découragé par eux. Encore une autre fois, merci Seigneur pour les défis et les fardeaux. Bonne main d'applaudissement pour le stress. C'est rare qu'on fait ça, mais on le fait. Il faut changer de perspective, changer de perspective. Prenons Nouvelle Vie comme exemple. Avec 8 sites maintenant et d'autres en attente. Chacun de ces sites représente des défis, des pressions, des coûts. Chacun de ces sites demande des ressources humaines et des finances. Avec chaque site, on ajoute un surplus de soucis, fardeaux, discussions, travail, le défi de trouver des solutions, des bénévoles et de l'argent. Mais est-ce qu'on veut que le Seigneur enlève ses fardeaux? Non, jamais. On dit merci, Seigneur, pour les soucis et les fardeaux d'une croissance et pour une multiplication. Quelle bénédiction! On dit, Seigneur, envoie-nous encore plus parce qu'on sait que par ta grâce, la plénitude de ton esprit et ta provision, nous sommes capables d'aller de l'avant. Au lieu d'être stressé par ces choses-là, on les applaudit, on les acclame, on dit, Seigneur, on veut encore plus. Merci parce que par ta grâce, on est capable. Vous êtes capable, moi je suis capable. Une bonne main d'applaudissement pour tout ce que le Seigneur ajoute à notre assiette. Notre prière est, Seigneur, envoie-nous plus de projets, plus d'endroits, plus de multisites. Par la grâce de Dieu et l'aide de l'Esprit, avec l'aide de l'équipe, les bénévoles, la congrégation, le Saint-Esprit, on est capable, vous êtes capable. Merci Seigneur pour tout ce qui prend place ici à Drummondville. Le souci puis les fardeaux d'aller à 2 réunions, une croissance parmi les jeunes, les ados, les ressources, éventuellement peut-être une 3e réunion, c'est des fardeaux, dérangements, le stress et tout ça, mais vous êtes capable, nous sommes capables. Dieu va pouvoir les ressources financières et les ressources humaines et les ressources spirituelles. On sert un Dieu de multiplication et d'abondance. On ne fuit pas ces fardeaux-là. On dit, « Oh oui, Seigneur, encore plus, on est capable par ta grâce et ta force. » Est-ce que je peux entendre l'amen à cela? Come on, encore plus. C'est comme Dieu a fait avec Moïse, il n'a pas enlevé sa vie, il n'a pas enlevé la vie de Moïse. Ni une iota de ses charges ou ses responsabilités ou de son appel. Pour lui donner une vie plus facile. Non, il lui a donné une équipe, des amis, des ressources humaines et spirituelles. Pour l'aider à porter le fardeau, comme qu'il fait aujourd'hui. Remarque ce qu'il a fait avec Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes, emmène-les à la tente d'assignation, et qui se présente avec toi. L'Éternel descendit dans la nuée et prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Au lieu d'enlever sa vie, il lui a donné une équipe. Une équipe remplie de l'esprit. Et plus tard, on voit la reconnaissance de Moïse par sa réaction à l'inquiétude de son assistant Josué. Josué croyait que rien que Moïse était qualifié pour porter le fardeau et faire le ministère. Là, il s'inquiétait que Dieu se servait de d'autres personnes pour communiquer, pour faire du leadership, pour représenter Dieu et avancer la cause. Puis Moïse répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Il était tellement reconnaissant pour cette équipe remplie de l'esprit qu'il aidait avec sa mission. Il dit, « Moi, je veux encore plus. Moi, je prie pour le jour où tout le peuple de Dieu soit rempli de l'esprit pour aider avec le travail. » Et ça a pris 1500 ans. Mais enfin, la prière de Moïse a été exaucée au jour de la Pentecôte, quand l'Esprit a tombé sur les croyants, comme décrit en Actes chapitre 2. Le Saint-Esprit est arrivé sur l'Église. Et par la suite, le Saint-Esprit arrive encore sur l'Église en Actes 4, sur les Samaritains en Actes 8, sur Paul en Actes 9, sur la maison de Corneille en Actes 10 et sur un poignet de main de croyants en Éphèse en Actes 19. Dans le livre des Actes, la nouvelle série qu'on va commencer la semaine prochaine, Luc nous raconte l'arrivée du Saint-Esprit sur les Juifs, les Samaritains, des Italiens, des foules, des individus, sur des groupes. Il arrive à Jérusalem, en Césarée, en Éphèse et en Samarie. C'est comme si les pages des écrits de Luc crient vers nous le Saint-Esprit pour tous et partout. L'arrivée du pneuma, le souffle de Dieu pour tous. Le Saint-Esprit agit sur, en et à travers chaque croyant pour nous équiper à travailler ensemble pour avancer la cause de Dieu qui inclut les Québécois et Québécoises en 2023. Combien sont heureux de savoir que nous sommes la réponse à la prière de Moïse. Et dit, levez vos deux mains vers le Seigneur et dit, oui Seigneur, merci. Je suis la réponse. Remplis-moi de ton esprit. Je veux faire partie de l'équipe. Le Seigneur répond encore à cette prière partout cette province, partout la francophonie. Et voilà l'essence de l'Église. Une communauté de personnes prêtes et préparées par Dieu pour faire le ministère ensemble. Une communauté de personnes qui communiquent la parole de Dieu à tous les jours et en tous les lieux. Luc veut nous enseigner que dans l'Ancien Testament, le ministère était accordé à des personnes choisies. Le Saint-Esprit était accordé à une personne, un groupe, un tribut, sur qui versait Dieu, Dieu versait son esprit. Mais aujourd'hui, nous sommes tous appelés, tous rendus capables et qualifiés par le Saint-Esprit. Et l'avancement de l'Église est un travail d'équipe. C'est quoi la prédication de Pierre après l'arrivée du Saint-Esprit en Actes 2? Car la promesse du don du Saint-Esprit, ce don excellent et parfait, est pour vous, mais pas seulement pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Wow, c'est vous et moi, ça. Selon Luc, l'Église n'est pas un rassemblement de gens qui flottent sur la mer d'inutilité, de futilité, de non-sens, en attendant le retour de Jésus. Comme que nous ne sommes pas non plus des simples croyants. On est juste des croyants. On est comme le reste du monde, sauf plus poli, plus souriant, plus gentil. Non. Car selon Luc, nous ne sommes pas n'importe qui. Car l'arrivée du Saint-Esprit chez nous, en nous, fait de nous des partenaires avec Dieu, des membres utiles entre ses mains, rendus capables de communiquer la parole de Dieu à une génération perdue. Et Luc, sous l'inspiration de Dieu, nous enseigne que nous sommes maintenant par le Saint-Esprit rendus tous, sans exception, une communauté choisie, mandatée, oint surnaturellement, un peuple appelé et équipé pour la mission, pour combler les responsabilités d'une communauté vivante, vibrante et vitale. Et si les premiers croyants, les premiers disciples et les premiers chrétiens avaient besoin du Saint-Esprit, qui sommes-nous pour croire que nous n'avons pas de besoin? Si c'était nécessaire pour les disciples d'être remplis de l'Esprit, les disciples qui avaient témoigné la résurrection de Jésus en personne, ainsi que pour Paul après sa conversion dramatique sur le chemin vers Damas, qui sommes-nous pour penser que nous pouvons vivre sans lui? Et selon Luc, la raison principale pour laquelle nous avons tous besoin du Saint-Esprit n'est pas pour nous transformer à l'intérieur, ni pour nous rendre plus saints, plus sanctifiés, plus patients ou plus polis, mais pour nous rendre plus puissants, pour accomplir notre mission dont la priorité est de gagner des âmes, sauver des vies si vous préférez, car de gagner est un âme et de sauver une vie pour l'éternité. Le Saint-Esprit est arrivé sur les croyants il y a 2000 ans pour la même raison qu'il arrive chez nous aujourd'hui. Ce n'est pas pour que nous soyons bénis ou pour que nous ressentons des frissons ou vivons des bonnes émotions ou des vagues de gloire ou une chaleur dans notre fort intérieur pour le sensationnalisme, mais c'est pour que nous avançons le royaume de Dieu et la cause de Christ par l'évangélisation proactive. C'était vrai pour eux et c'est vrai pour nous encore en 2023. Il nous rend des témoins vivants, des témoins visibles, des témoins capables. Si vous êtes d'accord, une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un témoin. Loin part et rendu capable par le Saint-Esprit. Et foi après foi, je termine dans quelques instants, foi après foi dans son livre sur les actes, Luc nous démontre que l'arrivée du Saint-Esprit signifie la puissance, la capacité, l'énergie, la motivation pour la mission d'avancer le royaume de Dieu par l'évangélisation des foules et des individus. Car chaque effort compte, chaque âme compte. Et selon Luc, il est absurde de vivre comme si le Saint-Esprit nous est donné tout simplement pour qu'on ressent bien ou béni comme un genre de thérapeute invisible. Non, l'arrivée du Saint-Esprit chez nous et en nous fait de nous des personnes en qui demeure l'Esprit de Dieu et qui se sert de leur langue ou de leur code vocal pour communiquer ce qu'ils ont reçu de Dieu. Une communication pas weird, pas bizarre, une communication d'une manière normale et naturelle. Nous pouvons tous communiquer très bien la parole en prenant un café avec quelqu'un, en donnant une parole d'encouragement à quelqu'un le matin, un bon conseil, un courriel qui les édifie, un texte qui les élève ou les inspire, comme décrit par Isaïe. Ça, c'est ma prière à tous les matins et ça doit être votre prière à tous les matins. C'est cette simple prière en Isaïe qui dit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Voici une belle prière à prier chaque matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Seigneur, donne-nous une langue exercée, inspirée par ton Saint-Esprit, afin que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Prions, aspirons, recherchons la source de toute chose surnaturelle, le Saint-Esprit. Que Dieu nous sauve des chrétiens qui n'ont aucun désir d'apprendre sur le Saint-Esprit, des chrétiens qui ont perdu leur soif pour la plénitude du Saint-Esprit. Invitons le Saint-Esprit à prendre place dans nos vies, nos cœurs, nos foyers, nos maisons, nos réunions de petits groupes et nos réunions d'église. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? J'invite les musiciens en avant à jouer doucement. On va terminer dans un instant avec une invitation. Puis encore une fois, ça ne prend pas la perfection, ça prend la passion, ça prend la soif. Jésus a crié, celui qui a soif, c'est tout. Soif, désireux, qui reconnaît son besoin du Saint-Esprit, vient des fleuves d'eau vive. Mais ça prend une invitation, parce que Dieu n'est pas comme le voleur. Quand Jésus a décrit Satan, il est décrit comme un voleur. Il dit, Satan, c'est un voleur. Un voleur vient par imposition. Il n'attend pas une invitation. Hein? Un voleur, c'est un intrus. Je ne sais pas si vous avez déjà été volé chez vous, mais nous, quand on était jeune couple marié dans le ministère, on avait un appartement à premier étage, puis on est rentré un soir, moi et mon épouse, puis on a vu que quelqu'un avait rentré. Il y avait des marques, des traces de marques de souliers, il y avait des choses qui étaient en envers. On a regardé, puis il avait rentré par la fenêtre de notre chambre à coucher, puis il y a un voleur qui est rentré chez nous, on ne l'a pas invité. C'est un intrus, il s'est imposé. C'est dérangeant. C'est certain qu'il était le voleur le plus déçu dans l'histoire des voleurs, là. Parce qu'on était jeunes, on était pauvres, on était sanctifiés. On n'avait même pas une télévision. On n'avait pas d'argent. Pas d'argent pour une télévision, pas d'argent pour des bijoux, pas d'argent pour des belles affaires. On n'avait rien. Certain que le voleur a rentré et dit, « C'est qui vit ici? Il n'y a rien à voler. » On a vu qu'il a gardé partout, il n'y avait rien. Jeune, pauvre et sanctifié. Mais on était quand même dérangés. Ce qu'il fait ici, on n'est jamais invité, lui. C'est un intrus, quelqu'un qui a rien à faire. Ça, c'est Satan, lui. Il rôde comme un lion, là, puis il ne cherche pas d'invitation. Dès qu'il voit une place, un endroit, là, il attaque. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne s'impose pas. Dieu, il vient par invitation. C'est pour ça qu'il se dit, celui qui ouvre la porte, celui qui a soif, celui qui invite. Dieu y attend l'invitation. Dieu attend un peuple qui lui donne le contexte, qui dit, viens Seigneur, viens. Je cherche la plénitude de l'Esprit. Je ne veux pas être ignorant ni indifférent à tout ce que le Saint-Esprit peut faire. Une invitation, la réceptivité, on aspire, on invite. Parce que l'Église Nouvelle Vie Drummondville, pour qu'elle soit une église spirituelle où l'Esprit agit, opère ses dons et manifeste son fruit, bien, il faut que vous soyez des personnes spirituelles. Il faut que vous soyez des personnes en qui l'Esprit agit, opère ses dons et manifeste son fruit. Parce que l'Église Nouvelle Vie Drummondville va être et va devenir ce que nous sommes, ce que vous êtes. Ce que vous êtes engagés à devenir, pas plus et pas moins, car nous sommes l'Église. Vous êtes l'Église. Et la qualité d'une Église dépend toujours sur la qualité des croyants dans l'Église. Et moi, je vous invite à être des croyants d'anticipation, des croyants de passion, des croyants qui disent, Seigneur, on veut la plénitude de tout ce que ton Saint-Esprit offre. Seigneur, nous sommes ouverts. On veut être une Église d'impact extraordinaire, remplie des chrétiens qui ont le don extraordinaire de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Alors, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, d'en arrière, jusqu'ici en avant? Est-ce qu'on peut lever nos deux mains vers le Seigneur et dire, Seigneur, on cherche pour plus une église, qu'une église remplie de chrétiens. On cherche, Seigneur, des chrétiens remplis de l'Esprit. Comment levons nos mains, on voit tous ensemble. C'est une invitation et juste inviter le Seigneur. Seigneur, je crois, nous l'avons chanté ce matin. Je crois, je crois, je crois que tu es un Dieu de miracles. Tu es un Dieu d'abondance. Tu es un Dieu de grâce. Levons nos mains dans la présence de Jésus ici, dans la présence du Saint-Esprit. Il y a des personnes dans cette salle, vous avez besoin justement de l'abondance de la grâce de Dieu, la plénitude de la grâce de Dieu pour vous soutenir pour les choses que vous vivez en ce moment. Vous avez besoin de la plénitude, de la joie que le Seigneur vous donne. La joie pour bannir l'angoisse, la crainte, le découragement, la dépression. La joie complète que j'en parle. Il y en a ici qui ont besoin de la vie, renouvelée dans la vie de l'Esprit, la vie spirituelle, la vie surnaturelle. Seigneur, la vie abondante, ce n'est pas des miettes, c'est l'abondance. Les personnes qui ont besoin, un miracle. Seigneur, un miracle. On a chanté, nous croyons, tu es le Dieu de miracles. Seigneur, il y a des personnes ici qui ont besoin de miracles. Miracles financiers, physiques, spirituels, de santé, de la famille, de réconciliation, de restauration. Seigneur, de provision. Nous avons chanté, mais nous le croyons. Le Dieu de miracles par ton Saint-Esprit. Les personnes ici, Seigneur, nous sommes tous des personnes qui veulent porter encore plus de fruits. Beaucoup de fruits par le Jésus qui demeure en nous, par son esprit. Seigneur, on est appelé, je réclame chaque homme, femme et jeune dans cette salle pour être quelqu'un qui porte non seulement un peu de fruits, mais beaucoup de fruits. Multiples bénédictions, l'impact, le témoignage. Seigneur, on veut être des témoins visibles. Seigneur, des témoins vivants. Multiplie la bénédiction. Et Seigneur, tous ensemble, nous disons, remplis-nous de ton esprit. Seigneur, afin qu'un fleuve d'eau vive coule de notre vie, de notre langage, de notre communication, 7 jours par semaine, Seigneur, par tout ce que nous sommes, à l'école, l'université, au travail, le voisinage, le quartier, à la maison, en vacances, en public et en privé. Seigneur, tu as promis fleuve d'eau vive de rafraîchissement. Nous croyons que tu es un Dieu de miracles. Quand levons nos voix, nos mains tous ensemble et chanter juste le refrain de ce chant. Oui, je crois, tu es le Dieu.